Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Et il pourrait être mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. 7 membres de l'ultra-gauche devant un juge d'instruction ce soir. Ils préparent une action violente, tout ce que l'on sait dès le début de ce journal. Les stations de ski entrevoient au bout du tunnel. Réouverture peut-être début janvier. Rideau toujours baissé en revanche pour le monde de la culture, théâtre, cinéma où la fronde monte sérieusement.
Un sentiment de rébellion, d'avoir envie quand même d'ouvrir, d'accueillir mes spectateurs, bien sûr dans le respect des normes sanitaires.
Dans ce journal également, qu'est-ce qui explique le retard de Sanofi dans la course au vaccin? Le no deal de plus en plus probable dans les négociations du Brexit? Le gang des grands crus qui sévissait dans la région de Bordeaux? Et puis le fiasco Mediapro, quelles conséquences pour le foot français? Du foot, il y en a ce soir d'ailleurs. Saint-Étienne-Angers, début de la 14e journée de Ligue 1. Anthony Perel, vous êtes à Geoffroy Guichard.
Oui, 0-0, un but refusé pour Saint-Étienne pour hors-jeu. Un pénalty probablement oublié pour Angers. On en est là après 46 minutes de jeu à Geoffroy Guichard.
Merci Anthony, on vous retrouve à la fin du journal, juste avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil, 22h20. Les résidences de tourisme pourront-elles rouvrir pour les fêtes de fin d'année? Un point sur la bourse, bien sûr, avec Didier Hamot et vos prévisions météo pluvieuses pour demain avec Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pour commencer donc, ces soupçons d'un projet d'attaque violente déjoué. 9 personnes, membres de l'ultra-gauche interpellées. 7 se trouvent devant un juge d'instruction ce soir. Elles pourraient être mises en examen pour terrorisme, Guillaume Bier.
Oui, c'est une enquête des services de renseignement qui est conduite par un juge antiterroriste depuis 8 mois déjà au sein de la mouvance ultra-gauche. Les policiers de la DGSI et la justice se sont intéressés de près aux activités et aux projets d'une dizaine de militants radicaux soupçonnés d'avoir voulu monter une attaque violente. De quelle ampleur, contre quelle cible? À ce stade, ce n'est pas encore clairement défini par les enquêteurs, nous dit-on avec prudence, mais les craintes étaient suffisamment fondées pour qu'un coup de filet soit déclenché. En début de semaine, 9 personnes ont ainsi été arrêtées mardi, interpellées dans le sud-ouest, près de Toulouse, mais aussi en Dordogne et en région parisienne. Preuve que les suspects avaient les moyens d'agir, des armes ont été retrouvées en perquisition, ainsi que des produits qui auraient pu servir à fabriquer des explosifs. À l'issue des gardes à vue, 2 suspects ont été relâchés, mais 7 autres sont présentés au juge pour être mis en examen. Il s'agit de 6 hommes et une femme, tous âgés d'une trentaine d'années, et qui risquent des poursuites, notamment pour association de malfaiteurs à caractère terroriste.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. L'autre grand titre à la une ce soir, c'est donc cette situation sanitaire qui continue de glisser lentement mais sûrement dans le mauvais sens. L'agence Santé publique France appelle à redoubler de vigilance pour éviter une reprise de l'épidémie. Les hospitalisations et entrées en réanimation ne baissent plus suffisamment. Et pourtant, les professionnels de la montagne ont retrouvé un peu d'espoir ce matin. Le gouvernement a laissé entrevoir une réouverture des remontées mécaniques en station pour le 7 janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Annonce du Premier ministre Jean Castex qui soulage, vous allez l'entendre, le maire de La Plagne dans la vallée de la Tarentaise, également président de l'Association nationale des stations de montagne.
Sauf problème sanitaire majeur, mais le 7 janvier, on aura la possibilité d'ouvrir nos remontées mécaniques. Et ça veut dire que derrière, on va pouvoir relancer la commercialisation des séjours depuis le mois de janvier, en continuant sur février, mars et avril. C'est vraiment un grand pas en avant et on est vraiment très satisfait. Le travail mené en commun a porté ses fruits. Les stations et tous les acteurs économiques seront indemnisés. Les moniteurs seront indemnisés sans problème. Les commerçants seront indemnisés. Les entreprises de remontée mécanique, on n'aura pas de dépôt de bilan. Le gouvernement a revu cela. On est plus que soulagés. Pourquoi? Parce que là, c'était vraiment un écosystème qui était mis à mal. On a beaucoup travaillé et on a été entendus. Et surtout écouter et compris.
La satisfaction du maire de La Plagne, Jean-Luc Bloch, avec Marguerite Lefebvre pour Europe 1. La colère continue de gronder en revanche dans le monde de la culture. Vous le savez, les musées, cinéma, théâtre en ont pris pour 3 semaines de plus au moins, rideau baissé. Ils s'étaient préparés à rallumer les projecteurs dès mardi prochain. Et ce soir, ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé, Mathieu Charrier.
Et oui, d'autant que contrairement aux autres fois, le ministère de la Culture ne les avait pas préparés à cette annonce du report de leur réouverture. Ils l'ont appris devant leur télé. Alors la Fédération nationale des cinémas français, par exemple, réfléchit à des recours juridiques et certains cinémas envisagent même de rouvrir dans l'illégalité. Écoutez Aurélie Delage qui dirige le Mégarama de Gara en Charente.
Moi, je suis partagée entre un sentiment de rébellion, d'avoir envie quand même d'ouvrir, d'accueillir mes spectateurs, bien sûr dans le respect des normes sanitaires, mais ce qu'on faisait déjà en fait entre juin et octobre et qui n'a pas posé de soucis. Mais j'ai envie parce que les aides, ça compensera pas l'absence de plaisir qu'on peut avoir quand on accueille nos spectateurs.
Et d'autant que décembre est le mois le plus important de l'année, hein, en termes d'entrée de chiffre d'affaires pour les cinémas. Exemple qui vaut aussi pour la majorité des secteurs culturels. Les théâtres font la moitié de leur chiffre d'affaires sur ces trois derniers mois, totalement perdus. Les expos, qui voient leur fréquentation gagner jusqu'à 20% pendant les congés de Noël, c'est perdu aussi. Et puis surtout, vous le disiez, l'échéance du 7 janvier annoncée par le Premier ministre n'est pas une date de réouverture, simplement une nouvelle étape pour faire le point. Alors la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a tenté de rassurer tout le monde en indiquant qu'elle allait demander et obtenir, selon elle, 35 millions d'euros d'aides supplémentaires qui viendraient s'ajouter, toujours selon elle, aux 7 milliards 500 millions d'euros concédés au secteur culturel depuis le printemps 2020.
Mathieu Charrier pour Europe 1. Dans la course au vaccin, à présent, ce contretemps pour Sanofi, le laboratoire français, a annoncé qu'il ne serait pas prêt avant la fin de l'année prochaine, fin 2021. Résultat, l'action Sanofi a plongé en bourse aujourd'hui, moins 4%. Victor Dolande, qu'est-ce qui explique ce retard ?
Ça veut dire concrètement que les résultats intermédiaires des premiers essais sur l'homme lancés en septembre dernier ne sont pas bons. Le vaccin est efficace pour les patients âgés de 18 à 49 ans, mais la réponse immunitaire est insuffisante pour ceux qui dépassent cet âge. Les laboratoires lancent donc un essai complémentaire à partir de février prochain pour tenter d'améliorer la formulation du vaccin. Mais cette nouvelle étape va forcément retarder la commercialisation du vaccin de 3 à 4 mois. Pas de panique pour autant, la campagne de vaccination en France n'est pas du tout compromise, puisqu'il était prévu de toute manière de distribuer d'abord les vaccins Pfizer puis Moderna. Une fois les autorisations obtenues, qu'on attend toujours, la campagne débutera en janvier prochain en ciblant d'abord, je le rappelle, les résidents et les personnels à risque dans les EHPAD.
Les précisions de Victor Dolande.
Europe 1. Théo Manval.
22h passées de 7 minutes, l'espoir d'arriver à un accord commercial sur le Brexit de plus en plus mince. Il est très très probable que les négociations échouent, affirme ce soir Boris Johnson. Même son de cloche du côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les différends restent insolubles sur la pêche ou les garanties contre une concurrence déloyale. Et ce no deal, certains s'y préparent déjà. Il n'y a qu'à voir les files d'attente de camions le long de l'autoroute à Calais, à l'entrée du port et du tunnel sur la Manche. Lionel Gougelot, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, cela fait 3 semaines que ça dure, avec certains jours jusqu'à 9000 camions qui traversent la Manche et qui engorgent les accès au tunnel ou au terminal des ferries, et donc effectivement des kilomètres de retenue sur les autoroutes. Alors bien sûr, en période de fête, le trafic de marchandises est toujours soutenu vers la Grande-Bretagne, mais à l'approche du Brexit, eh bien les Britanniques font des stocks et importent des tonnes supplémentaires de marchandises. David Sagnard préside au niveau régional la Fédération des transporteurs routiers.
En cas de Brexit dur, il y a une taxation importante des produits importés. Donc ils importent en mars aujourd'hui pour pouvoir stocker et pour pouvoir revendre au même tarif sur la période du premier trimestre 2021.
Et ces embouteillages, ça veut dire aussi des perturbations pour les entreprises locales de transport sur le littoral, comme celle de Sébastien Allan, qui, du fait des ralentissements et des retards, perd jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires.
C'est de la perte sèche et de la désorganisation. Moi, je paye aujourd'hui toutes mes charges, c'est pour utiliser les routes. Si je ne peux pas utiliser les routes là où je dois travailler, à ce moment-là, comment explique. Je comprends très bien, le tunnel, tout ça, il y a une grosse affluence. Seulement le Brexit, on ne s'est pas réveillé hier en disant « tiens, on va faire un Brexit, on va tout bloquer ».
Une situation de blocage qui augure mal de l'après-31 décembre, selon les transporteurs routiers, même si, du côté des autorités, on assure que tout sera prêt dans le port et au tunnel sous la Manche, pour assurer un maximum de fluidité si le Brexit se solde par un no deal.
Merci à vous Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. En Argentine, tous les regards désormais tournés vers le Sénat après le vote des députés légalisant l'avortement dans le pays. Le texte doit maintenant être approuvé par la Chambre haute qu'il avait rejeté il y a 2 ans. Mais l'écart de voix à l'Assemblée est plus important qu'en 2018, ce qui donne espoir à ses partisans. La Cour pénale internationale dénonce, elle, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Ukraine depuis 2014. La procureure général de la CPI ouvre une enquête. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'affrontent dans la région du Donbass dans un conflit qui a déjà fait plus de 13 000 morts, dont au moins 3 000 civils depuis 6 ans. En France, au volet judiciaire, on connaît ce soir la date du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il s'étendra du 8 septembre 2021 jusqu'en mars 2022 devant la Cour d'assises spéciale de Paris. 20 personnes y seront jugées, dont Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos qui avaient fait 130 morts. La justice avec ce démantèlement aussi aujourd'hui d'un réseau de voleurs de grands crus, 25 personnes interpellées en Gironde, en Dordogne et dans la Loire. Leur cible, Stéphane Place, de bonnes et même de très bonnes bouteilles.
Oui, cette série de cas très ciblés débute il y a un an et demi, en août 2019, chez des négociants en vin ou encore dans un hypermarché à la cave réputée, ici dans la banlieue bordelaise. Et ce ne sont pas les caméras de surveillance qui freinent les ardeurs de ces cambrioleurs, qui ne frappent pas au hasard hein, des caisses entières de crus prestigieux embarquées en quelques minutes dans des fourgons ou camions faussement immatriculés. Clairement, ces voleurs passent à l'action après de minutieux repérages. Le directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de Bordeaux, Patrick Léonard.
Des professionnels, des délinquants d'habitude, puisqu'ils savent déjouer les systèmes de sécurité et ils vont dans des entrepôts où sont entreposés des vins de grande qualité. Manifestement, ils répondent à des commandes parce qu'ils vont chercher des choses bien précises. Un éventail de ce qui se fait de mieux, hein, Château Yquem, Pétrus, du Cru Beaucaillou, Château Margaux et même des Bourgognes, Romane et Conti. Si on met bout à bout tous les préjudices de tous ces cas, on approche les 5 millions d'euros. On a retrouvé une petite partie du butin. Hein. Dans nos endroits de perquisition, on a retrouvé 600 bouteilles. 600 bouteilles, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais quand c'est des grands crus, ça peut avoir une valeur très importante. On a même des Mathusalem, hein, donc 6 litres, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Forcément, quand c'est des grands crus, ça a des prix aussi qui peuvent monter assez vite.
Ce soir, 14 personnes ont été présentées au juge d'instruction bordelais qui dirige ces investigations.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. On termine avec les sports et avec donc ce séisme pour le football français. La rupture consommée entre Mediapro et la Ligue de football professionnel. Le contrat mirobolant signé il y a un an vient de partir en fumée, le diffuseur n'arrive plus à payer. Tout juste versera-t-il 100 petits millions d'euros de compensation ? Cyril de la Morinerie, c'est peu dire que ce fiasco laisse maintenant place à beaucoup, beaucoup de questions.
Première question, est-ce que vous pourrez regarder ce week-end Téléfoot ? La réponse est oui, la chaîne continue d'émettre. Elle va diffuser les prochaines journées de championnat, au moins jusqu'au 16 décembre inclus. La Ligue doit récupérer les droits d'ici le 21 décembre. Qui va prendre la suite ? Canal+, sans doute, mais la chaîne cryptée a le sentiment d'avoir été humiliée lors du dernier appel d'offres. Elle n'a pas l'intention de surpayer la Ligue 1. On parle d'une somme avoisinant les 600 millions d'euros. Canal aimerait récupérer le match du dimanche soir à 21h, beaucoup moins le multiplex du dimanche après-midi. beIN Sport pourrait se positionner notamment sur les 8 matchs de Ligue 2 diffusés cette saison par Mediapro. Enfin, quelles conséquences pour le foot français ? Importantes, évidemment. Bien sûr, la Ligue va récupérer 100 millions d'euros, mais on est très loin du milliard espéré. Les clubs vont devoir se mettre à la diète et comptent sur le mercato d'hiver pour vendre des joueurs et récupérer des sous.
Il y a une question aussi, Cyril, pour les abonnés de la nouvelle chaîne Téléfoot qui avait été créée au lancement de Mediapro. Qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant ?
Oui, les 600 000 abonnés annoncés par Mediapro vont devoir se retourner vers leur opérateur, en particulier tous ceux qui ont un engagement d'un an. Orange, notamment, promet de tenir informés ses clients. De toute façon, lors de l'arrêt de la chaîne, il sera possible de stopper les versements. C'est prévu par le Code civil. En revanche, pour les 160 salariés et les 60 journalistes, c'est bientôt fini. Selon nos informations, beaucoup envisagent une action en justice pour préjudice moral.
Cyril de la Morinerie. Allez, du foot, il y en a quand même sur les terrains. Et en tout cas, vous ne manquerez rien sur Europe 1. Saint-Étienne-Angers, ouverture de cette 14e journée de Ligue 1. Anthony Perel, c'est pas folichon pour l'instant au stade Geoffroy Guichard.
Ouais, une petite heure de jeu dans le chaudron et toujours, évidemment, 0-0 entre Stéphanoise et Angevin. Match plaisant malgré tout, quelques petites occasions à se mettre sous la dent. Les Verts ont bien cru ouvrir le score en première période, mais la réalisation de Denis Bouanga, qui avait parfaitement enchaîné dans les 6 mètres Angevin, a été refusée pour hors-jeu. Décision plutôt logique. Ce qu'il était un petit peu moins, c'est cette situation litigieuse dans l'autre surface de réparation à la demi-heure de jeu. Le défenseur des Verts, Timothée Kolodziejczak, a accroché l'attaquant Angevin, Jimmy Cabot, mais Lely a préféré aller au bout de son action plutôt que de s'effondrer et d'obtenir un pénalty. Bon, c'est tout à son honneur, mais ça n'a pas vraiment plu à son entraîneur, Stéphane Moulin, pour qui il y avait pénalty. L'arbitre lui n'a pas bronché. Depuis la reprise, c'est un petit peu le même scénario. Les deux équipes tentent de se projeter assez vite vers l'avant. Angers a eu la plus grosse occasion. Il a fallu une belle intervention de Jesse Moulin, le portier des Verts, qui a envoyé la tête d'Angelo Fulgini sur son poteau. C'était tout juste au retour des vestiaires. Et là, c'était les Verts qui étaient à l'attaque. Vous l'avez peut-être entendu derrière moi, même s'il n'y a pas de public, il y a eu un petit frémissement sur corner.
C'est passé à côté.
Toujours 0-0. Il reste 30 minutes pour faire la différence. On espère que ça sera le cas avant que vous veniez nous revoir.
Allez, on espère aussi. Merci à vous, Anthony Perel. Depuis le stade Geoffroy Guichard, on refait un point avec vous dans un quart d'heure. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a un heureux ou une heureuse de plus en France ce soir. Le jackpot record de 200 millions d'euros du tirage Euromillions a été remporté par un Français. C'est ce qu'indique à l'instant la Française des Jeux. L'heureux ou heureuse gagnant ou gagnante dispose de 4 mois pour se faire connaître auprès de la FDJ et percevoir son gain. Voilà, c'est dit. 22h14, on passe à la météo. Avec vous Anissa Haddadi, toujours 4 départements du Sud-Est en vigilance orange pour les crues, le Gers, les Landes, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Et justement, ce sera un temps humide et nuageux demain pour beaucoup de monde.
Oui, avec pour commencer Théo, demain dans le sud, sur le bassin méditerranéen et la Corse, des nuages et des averses. Alors dans l'après-midi, le ciel va s'éclaircir au bord de la Grande Bleue grâce au vent qui souffle et qui chasse les nuages. Mais attention, c'est la tramontane qui souffle et elle va souffler demain jusqu'à 100 km/h. Des Pyrénées jusqu'aux Alpes en passant par l'Auvergne, la journée commence avec des averses. Il neige toujours en montagne et puis sur le quart nord-ouest, donc à l'arrière de cette perturbation, sur le Cotentin, la Bretagne, les Pays de la Loire, le soleil est de retour demain après-midi. Attention, demain soir en Bretagne, le ciel se couvre et cela annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Vous l'avez compris, c'est un week-end pluvieux. Les températures, bonne nouvelle, fin des gelées matinales. Demain matin, nous aurons 0 degré à Manosque, 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Nice et Rennes, 8 à Paris et 10 à Biarritz. Et au meilleur moment de la journée, c'est stationnaire, 6 à 14 degrés, 6 à Cherbourg, 10 à Lyon, 11 à Paris et 14 pour Quimper.
Une prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas, dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil, Patrick Labrune, président du syndicat national des résidences de tourisme et des appart-hôtels, pourront-ils rouvrir pour les fêtes ? A tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Et à 22h17, on fait un point sur la bourse. Avec vous, Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Théo.
Wall Street termine la semaine en roue libre, alourdie par des prises de bénéfices.
Oui, fin de semaine hésitante à New York. Wall Street hésite ce soir. Le Dow Jones grappille 0,16%, 30 046 points. Mais le Nasdaq perd 0,23%, 12 378 points. Les valeurs de technologie qui ont bien progressé ces dernières semaines soufflent un petit peu. On a Tesla qui repère 2,7%, 610 dollars. Facebook, moins 1,3%. Apple perd 0,6%, une petite baisse à 122,40 $. Amazon est stable. Il y a une exception ce soir, c'est Walt Disney qui grimpe de 13,6%, 175,72 $. Après les annonces impressionnantes concernant les abonnements à sa plateforme de streaming, Disney+, qui compte déjà plus de 86 millions d'abonnés dans le monde. Walt Disney, donc, ce soir en forte hausse, 13,6% de mieux. Et puis après son envolée d'hier pour sa première journée de cotation à Wall Street, Airbnb redonne un petit peu de terrain, une baisse de 3,7% à 139,25 $. Le pétrole aussi revient un petit peu en arrière, sous les 50 $ le Brent, 49,90 $. L'euro reste stable à 1,21 face au billet vert.
La Bourse de Paris, Didier, a aussi perdu du terrain sous le poids des prises de profit.
Oui, moins 0,76%, 5 507 points. Les prises de bénéfices se sont accélérées après l'annonce du retard du vaccin développé par Sanofi et GSK. Sanofi a chuté de 4%, 78,52 € ce soir à la clôture. Et puis d'autres grosses valeurs retombent aussi. Orange repère 4% de retour sous les 10 €. Le secteur pétrolier aussi perd un petit peu de terrain. Il était bien remonté ces dernières séances. Technip, moins 4% avec CGG, moins 4% aussi. Vallourec, moins 3%. Et puis l'automobile, Renault, moins 3%. Forestia glisse aussi de 3%. Ailleurs, sur les autres places financières, ça baisse un petit peu partout. Francfort, moins 1,4%. Bruxelles, moins 0,8%. Milan perd 1,6%. Londres, moins 0,8%. Toujours avec le Brexit qui n'en finit pas. Et puis on rappelle le CAC 40, donc en baisse de 0,76%. 5 507 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet, Didier Hamaud de boursier.com. À 22h20 sur Europe 1, l'interview écho avec vous Emmanuel Duteil. Va-t-on pouvoir louer un chalet, un appart-hôtel en ville ou à la montagne pour les fêtes cet hiver ? Votre invité est là pour nous répondre. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Patrick Labrune.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du syndicat national des résidences de tourisme et des appart-hôtels. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Ça y est, c'est sûr, les résidences de tourisme seront ouvertes pour les vacances de fin d'année. Ça s'est décidé ce matin. J'imagine que quand même, c'est un énorme ouf de soulagement.
Ah, c'est un très grand ouf de soulagement. Ce matin, nous avions une réunion des professionnels de la montagne avec le Premier ministre Jean Castex et Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre du Tourisme. Et nous avons pu poser la question ce qui, au vu des annonces d'hier soir, n'était pas évident. Est-ce que nos résidences de tourisme pourront ouvrir ou non? Est-ce que nos piscines pourront ouvrir ou non? Et nous avons eu la réponse positive pour ce qui concerne nos résidences.
Oui, parce qu'il y a un point extrêmement important. Les résidences ouvrent. Donc là, ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment et qui ont potentiellement fait des réservations ou qui souhaiteraient en faire, c'est possible. Attention, grosse déception là en revanche, les piscines sont fermées, ce qui génère, je crois, quand même une petite incompréhension de la part de la profession.
Tout à fait, parce que le chlore que l'on trouve dans l'eau des piscines est quelque chose qui tue le virus du Covid. On en a une certitude scientifique. L'été dernier, d'ailleurs, nous avions des protocoles sanitaires qui étaient très stricts pour encadrer l'ouverture de ces piscines privées à usage collectif. Il n'y a eu aucun souci. Donc nous avions proposé de réduire la jauge d'occupation et de la ramener à une personne pour 8 mètres carrés, comme ce qui se fait dans les commerces. Et nous n'avons pas eu satisfaction sur ce point.
Vous n'avez pas eu satisfaction sur ce point. Il faut dire que les résidences de touristes, c'est quand même un pan important de l'hébergement touristique, hein, parce qu'on estime que vous représentez un tout petit tiers de l'hébergement, que ce soit à la montagne ou du côté de la mer. Avant d'entrer dans le détail, est-ce que déjà vous aviez des réservations pour cette fin d'année? Est-ce que les Français avaient eu envie de partir et vous avez fait confiance?
Alors les Français avaient eu très envie de partir jusqu'au 28 octobre, jusqu'au confinement. Donc le niveau de réservation était très satisfaisant pour la saison d'hiver. Et puis tout s'est arrêté brutalement avec le confinement et puis également l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques. Les Français étaient attentistes et j'espère que l'envie leur reviendra de prendre quelques jours de détente et de plein air à la montagne.
Oui, parce que je crois qu'environ, là encore, un tout petit tiers des résidences, il y en a 656, je crois, mais il y en a 200 qui seront ouvertes pour cette période de Noël, malgré le fait que les remontées mécaniques, elles, restent fermées.
Tout à fait, tout à fait. Les résidences, un tiers des résidences de tourisme de montagne ont décidé d'ouvrir leurs portes à la fois par solidarité avec les professionnels de la montagne, les commerces, les artisans, les guides, parce qu'il y a des activités, et puis parce que certaines stations de montagne, notamment sur des altitudes moyennes, sont tout à fait propices à des activités autres que le ski.
Oui, parce qu'on le dit peut-être pas assez, mais on peut faire du ski de fond, on peut faire de la luge. Certaines patinoires extérieures seront également ouvertes, a priori.
Tout à fait. Tout ce qui est extérieur sera en fonctionnement. Et puis, les communes de montagne sont extrêmement dynamiques, donc elles nous préparent des surprises, je pense. Elles vont nous trouver des activités. Et puis, il y a de la neige partout. Donc, voir des paysages de neige à Noël, on peut penser qu'il y a une certaine magie et que certaines familles auront envie d'emmener leurs enfants voir de la neige.
Alors, bien évidemment, il y aura moins de monde que ce qui aurait été le cas, logiquement, pour ces vacances de Noël et du jour de l'an à la montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde là encore dans le détail, et cette fois à la mer, il y a plus d'ouvertures que l'année dernière des résidences de tourisme. Est-ce que ça veut dire que vos membres pensent qu'il va y avoir du monde qui va se reporter sur la côte, notamment atlantique, parce que je crois qu'il y a du monde potentiellement, et c'est ouvert en Normandie, en Vendée, en Gironde, mais aussi bien évidemment sur la côte d'Azur.
Tout à fait, tout à fait. Nous espérons un mouvement de report de la clientèle qui a annulé ses vacances à la montagne du fait de l'absence de neige, de ski plutôt, de remontée mécanique. Nous espérons que cette clientèle aura l'envie d'aller passer quelques jours sur la côte atlantique ou à proximité de son domicile. Et donc nous avons un certain nombre de nos adhérents, 15% de plus que les années précédentes, qui ont décidé de tenter le pari d'ouvrir leur résidence pour les vacances de fin d'année avec une adaptation des durées de séjour, des séjours qui peuvent être plus brefs que la moyenne traditionnelle de séjour qui est la semaine. Donc il y a une adaptation de notre offre et de la durée des séjours aux circonstances particulières de cette année.
Malgré tout, Patrick Labrune, ce qui est certain, c'est que ces vacances pour vous aussi vont être bien moins bonnes que ce qu'elles auraient pu être si la période avait été normale. Du coup, vous avez aussi rappelé ce matin au gouvernement que vous voulez des mesures d'aide pour aider à payer les loyers des propriétaires, pour aider à payer les emprunts, pour soutenir cette activité économique qui va quand même en partie s'effondrer.
Tout à fait. En montagne, le gouvernement nous a invités à présenter des demandes d'indemnisation basées sur le montant de nos frais fixes. Nous avons pris Bruno Le Maire et Jean Castex au mot et nous avons donc présenté une demande d'indemnisation basée sur notre perte de chiffre d'affaires. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée est de pouvoir ouvrir nos résidences dans 30% des cas ou de les maintenir fermées, mais en ayant la possibilité d'assumer nos charges fixes et notamment de pouvoir payer les loyers de nos propriétaires.
Et vous avez eu quelle réponse ?
Nous avons une réponse qui nous invite à poursuivre les discussions la semaine prochaine.
Bon, eh ben on va suivre cette discussion. Un grand merci Patrick Labrune. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des résidences de tourisme et des appart-hôtels. Merci d'avoir été ce soir avec nous en ligne sur Europe 1. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Et lundi, vous recevrez avec Elisabeth Assayag dans La France Bouge, Cécile Gallien, vice-présidente de l'Association des maires de France. Comment les maires sont en première ligne pour la relance économique des territoires? Rendez-vous 13h, 14h à lundi. Vous restez avec nous à 22h27. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos quotidiens demain matin, vent de colère contre une culture sacrifiée en première page du Figaro qui revient sur le tollé, je cite, de la fermeture prolongée pour au moins 3 semaines des salles de spectacle et d'exposition. 56% des Français, plus de la moitié, désapprouvent cette décision, nous dit le Figaro. Sondage Elab à l'appui. Une question qui vous occupe certainement l'esprit à 2 semaines de Noël à la une de Ouest France. Comment fêter Noël en famille sans prendre trop de risques? L'infectiologue Didier Lepelletier dans les colonnes du quotidien vous donne ses conseils pour éviter que le virus ne s'installe à votre table. Et ça commence, vous le savez déjà, hein, par pas plus de 6 adultes autour de cette table. Et puis un climat d'espoir à la une de Libération qui revient sur les initiatives ambitieuses qui émergent pour le climat 5 ans après la COP21 à Paris, même si nombre d'objectifs, rappelle Libé, n'ont pas été tenus. 22h29, un dernier détour par le stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne-Angers, match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Où en est-on, Anthony Perel?
Toujours 0-0, malheureusement rien de bien alléchant à vous annoncer. Allez, si, une petite tête piquée de Timothée Kolodziejczak, le défenseur des Verts au ras du poteau, c'était à la 67e minute, là on joue à la 75e et donc 0-0. On va rappeler quand même quelque chose de simple, pour gagner des rencontres, il faut marquer des buts. Et c'est l'un des gros problèmes à Saint-Etienne qui n'a inscrit que 4 buts lors des 9 derniers matchs. Ce soir, le compteur est donc bloqué à 0. Les Verts sont empêtrés dans une série de 10 matchs sans victoire. Alors les Stéphanois doivent s'imposer ce soir pour se donner un peu d'air au classement. La zone rouge, elle est plus très loin. Et Angers, de son côté, peut basculer dans le top 4 du championnat en cas de succès. Donc les Angevins ont aussi un intérêt à aller chercher ce petit but. On vient d'assister à l'entrée de Loïs Diony. C'est l'ancien Stéphanois. Il a été un petit peu persona non grata ici. Est-ce que c'est lui qui va faire basculer cette rencontre? Alors on l'espère côté Angevin, on ne l'espère pas côté Stéphanois. En tout cas, on mériterait de voir un petit but. 0-0, 76e minute de jeu.
Merci à vous Anthony Perel. Il est 22h30 à l'écoute d'Europe 1. Vous avez rendez-vous à présent, comme tous les soirs, avec la Libre Antenne. Et c'est Sabine Marin qui s'installe pour le week-end. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Théo.
On est avec vous jusqu'à 1h.
Et je vous attends dans une demi-heure pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.